On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Bienvenue dans l'invité de 11h et quelques. Cet invité de 11h et quelques, aujourd'hui, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Tunde Deak. Est-ce que je l'ai bien descendu?
Très bien. Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Alors, Tunde Deak, c'est une jeune femme, comme vous avez pu l'entendre, déjà, on va commencer par là. C'est une dramaturge, c'est une auteure, c'est une metteuse en scène, c'est une scénariste, c'est une réalisatrice, c'est une créatrice.
Oui.
Finalement.
Finalement, on peut dire ça.
avec tous ces volets, tous ces outils à sa disposition. Tunde, tu fais partie de l'équipe artistique en fait de la Comédie de Valence.
Oui, tout à fait.
Depuis ce
début de saison qui est un peu étrange, mais c'est néanmoins un début de saison.
Alors, effectivement, à la Comédie de Valence, il y a un collectif artistique. Tu fais partie de ce collectif, mais tu es aussi, tu as eu une vie propre avant.
Tout à fait. D'ailleurs, chaque membre du collectif a une vie propre
avant, pendant et après.
Exactement.
Trêve de plaisanterie. Comment on vient? Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est que ces métiers dont on a parlé aussi, parce que dramaturge, par exemple, c'est un mot magnifique. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce qui se cache dessous? En tous les cas, le maître mot, si j'ose dire, ce sont justement les mots qui sont le fil rouge de toute ta création. Le travail sur les mots qui est vraiment le cœur de ta création.
Oui, on peut dire effectivement, tout s'articule un peu autour des mots, des textes.
Et de l'écriture,
oui, tout à fait. Au départ, j'ai donc commencé à travailler comme dramaturge, donc j'étais plutôt du côté du lecteur, de la personne qui découvre, qui essaye de voir ce que raconte un texte, comment on peut... Alors j'ai toujours travaillé très vite pour le théâtre, donc il y a toujours la question de ce qu'on entend, comment on peut faire entendre les mots. Voilà, c'est un petit peu ça, dramaturge, je crois. En fait, dramaturge, c'est un métier qui est très... Par exemple, en Allemagne, c'est un métier très, très bien défini, dont le cadre est très clair. Et en France, c'est beaucoup moins... Dans l'usage, il n'y a pas toujours un dramaturge sur les projets. Donc le dramaturge est assez proche de l'assistant à la mise en scène, mais il a vraiment la particularité de porter un regard, en particulier sur le texte et puis sur le plateau, ce qui se raconte, comment quand on raconte une histoire, quelles en sont les une histoire ou un propos. C'est pas forcément une histoire d'ailleurs, mais que raconte un spectacle au fond, comment on le raconte, comment on a envie de faire résonner les choses, voilà.
Mais c'est un travail de dramaturge, il travaille vraiment dans le texte, il rentre aussi profondément dans le texte, il permet des éclairages particuliers sur le texte.
Mais disons que le théâtre, c'est d'abord avant tout toujours un travail collectif, donc on rentre dans le texte avec les acteurs, avec le metteur en scène, avec toutes les personnes qui sont là, et puis peut-être un acteur, il y a un moment, il est occupé aussi par d'autres questions, et là, disons que le dramaturge est un peu la personne qui reste accrochée au texte et à ce qui se dégage du plateau, c'est un regard extérieur en fait.
Ce texte, ce spectacle, cette création, est-ce que c'est quelque chose que tu portes depuis toute petite, ta petite Tunde? Est-ce qu'elle allait voir des spectacles? Est-ce qu'elle rêvait devant, je sais pas, devant des salles de spectacle, devant des affiches?
Alors pas du tout. C'est drôle. Non, pas du tout. Le théâtre, c'est venu vraiment un peu par hasard et finalement un peu sur le tard, c'est-à-dire. J'ai toujours beaucoup aimé lire, donc ça c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai rêvé d'être écrivain, comme beaucoup d'enfants à 8 ans. Voilà, c'était quelque chose qui a été là très tôt, effectivement. Après, le théâtre est venu vraiment... Disons que je suis allée au théâtre avec mes classes. Je suis allée au théâtre au collège, voir Molière, au lycée. Voilà, mais c'était pas... Je suis pas allée tant que ça. J'avais pas une fréquentation assidue des salles. C'est plutôt... au cours de mes études, j'ai commencé à aller un peu plus souvent au théâtre. Et puis, il y a eu un ou deux spectacles qui m'ont vraiment marqué. J'ai pris la mesure de ce que pouvait être le théâtre à ce moment-là. Et puis, c'est plutôt par une rencontre. Moi, j'avais pas de pratique particulière du théâtre. Et puis, c'est au fil d'une rencontre, puis d'une autre, que je me suis retrouvée à travailler sur des projets de théâtre. Et puis, très vite, je me suis dit que c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, après, j'ai même réorienté un peu mes études pour me diriger plus clairement vers le théâtre. Mais c'est venu vraiment, je vous dis, vers plutôt 23 ans. Enfin, c'était pas du tout quelque chose de... C'était pas un rêve d'enfant, pas du tout.
Mais par contre, l'écriture.
L'écriture, oui. Les mots, la littérature, en général, oui, ça, oui, tout de suite. C'était très tôt. Oui.
Et si le théâtre est venu donc finalement assez tard, est-ce que parce que tu as aussi des collaborations avec dans la musique, par exemple. Donc est-ce que peut-être la musique c'est la première chose, les textes de chansons qui ont happé au départ.
Non, pas vraiment. C'est vraiment le texte littéraire, les mots, voilà. Après mes collaborations dans la musique en particulier, j'imagine que vous parlez de Nosfell. C'est plutôt justement à l'endroit de la dramaturgie parce que donc Nosfell, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il écrit des chansons, il danse. C'est un artiste total comme ça au plateau. Et donc, moi, mon travail avec lui, c'est vraiment de l'aider à partir de tous les matériaux écrits ou pas encore écrits, qu'il a envie de déposer dans un spectacle, de voir comment les choses peuvent s'agencer, comment il peut raconter, comment raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. C'est vraiment un travail de dramaturgie au sens d'organiser les textes et puis aussi de l'aider à dans l'écriture à trouver ce qui manque, ce qu'il faudrait encore écrire, ce qu'on utilise, ce qu'on laisse de côté. Voilà, c'est vraiment un travail de puzzle comme ça à quatre mains.
Alors, le spectacle vivant, est-ce qu'il est venu par le théâtre? D'ailleurs, tu as parlé de danse tout à l'heure.
Alors ça c'est vraiment plus très récent. Je viens de collaborer avec une chorégraphe qui s'appelle Johanna Lévy et qui, elle, dans son travail de chorégraphe, s'est toujours intéressée à des formes qui empruntaient au cinéma mais aussi au théâtre. Et je l'avais accompagnée un peu sur une création comme Regard extérieur parce que justement elle essayait de déployer une narration. Et puis après, elle m'a commandé donc un texte pour un spectacle qui s'appelle « Il restera la nuit » et qui devait être créé le 11 décembre, mais qui sera créé ultérieurement. Qui a quand même réussi à avoir une petite sortie de résidence devant des professionnels. Voilà, après, c'est jamais la même chose que de créer devant un vrai public et de rencontrer un public. Mais donc c'était une expérience très récente, mais une première, et c'était assez agréable parce que la place des mots sur un plateau de danse n'est pas du tout la même que sur un plateau de théâtre, donc c'était assez passionnant.
Elle est surtout pas du tout évidente.
Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs, les danseurs n'ont pas forcément l'habitude de dire du texte, donc c'était aussi pour eux un gros enjeu, un gros défi. auquel ils se sont prêtés avec beaucoup de trac et beaucoup de virtuosité à la fin. Donc,
et du coup, dans l'écriture, est-ce que comment ça fonctionne dans, pour écrire pour la danse, pour des danseurs en tous les cas, pour des mots qui vont être mis effectivement dans la bouche de gens qui s'expriment plus par le corps que...
Tout à fait. Alors là, du coup, effectivement, c'est pas du tout le même travail que pour le théâtre, parce que je n'avais pas la main sur la structure du spectacle. C'est-à-dire que la structure du spectacle, elle est avant tout inventée par les corps, pour les corps. Il y a vraiment une dramaturgie propre de l'énergie, qui se déploie au plateau. Elle repose sur le corps. Donc le texte était un peu dégagé de cette responsabilité de la structure. Et on a plutôt travaillé dans un aller-retour en discutant un peu avec Johanna. J'ai fait plutôt des propositions de textes plus courts, des fragments plus ou moins longs d'ailleurs, mais qui sont venus comme ça au fil de ces répétitions, au fil que la chorégraphie avançait, qui sont venus s'insérer dans le spectacle, mais vraiment un peu presque sur mesure dans des endroits qui lui semblaient justes. Et donc le premier travail a vraiment été assez fragmentaire comme ça, et puis c'est à la suite de cette première ébauche, je suis un peu venue aussi regarder leur travail, et on a essayé de comme ça refaire une trame un peu plus lisible aussi pour le texte. C'était un travail assez agréable pour ça, c'est vrai, de pouvoir avoir cette liberté-là d'écrire sans vraiment de cadre à avoir immédiatement, quoi, de se laisser aussi porter par un travail et puis de voir où ça menait.
Quand je t'entends parler de ce travail-là, et puis... Alors, vous le voyez pas parce que voilà, on est à la radio, hein, c'est un. Mais Tunde, tu as les mains qui parlent en même temps.
Je parle beaucoup avec les mains, c'est vrai.
Et j'avais l'impression de voir des mains de brodeuse en même temps que tu étais en train de dire qu'effectivement tu t'étais inséré dans ces endroits comme ça. C'est un travail au petit point, comme une brodeuse qui aurait travaillé sur un tissu, sur un vêtement.
Oui, bah c'est assez... effectivement, avec Johanna, c'est comme ça qu'on a travaillé. Après, de toute façon, il y a peut-être quelque chose de ça dans l'écriture en général, effectivement, surtout pour le théâtre, de venir poser des mots. En même temps, c'est jamais... les mots sont jamais seuls, il y a toujours un plateau autour, donc il y a aussi une question de quelle place on laisse, quelle place on prend. Il y a quelque chose qui est assez... oui, c'est peut-être de la broderie, effectivement, je ne me l'étais jamais dit.
ce sont les mains brodeuses qui m'ont fait penser à ça. Je t'ai demandé, comme aux autres, de choisir, de proposer deux respirations musicales pendant le temps qu'on passe ensemble. Et tu as choisi, entre autres, Daniel Lanois avec Sketches. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'abord un petit peu pourquoi Daniel Lanois, c'est extrait d'un album qui s'appelle Belladonna.
Daniel Lanois parce que en fait c'est tout simplement un album que j'ai énormément écouté pendant toute l'écriture de d'un lit l'autre, qui est un texte que j'ai créé, que j'ai mis en scène aussi. Cet automne à Rouen et qui devait jouer à Valence à partir de demain, mais qui malheureusement sera reporté à la fin de la saison. Et ce texte, c'est une variation autour de la figure de Frida Kahlo, et il se trouve que cet album, c'est un album que j'aime beaucoup parce qu'il est très agréable. C'est un album qui aide à se concentrer. Quand j'écris, j'aime bien avoir toujours de la musique dans les oreilles. Et il se trouve que Daniel Lanois a écrit cet album entièrement au Mexique, donc il est vraiment imbibé de cette espèce d'univers comme ça du Mexique. Il y a des emprunts un peu à un folklore mexicain, et en même temps on retrouve sa guitare à lui, son empreinte à lui. Donc c'est un album que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup accompagnée. Voilà.
Ben, je te propose qu'on écoute tout de suite ce Sketches, extrait donc de Belladonna de Daniel Lanois, et on va parler justement de Frida Kahlo tout de suite après. C'était Daniel Lanois avec Sketches. Vous êtes sur Radio BLV, dont l'invité de 11h et quelques. Et mon invité aujourd'hui est Tunde Deak, qui est artiste protéiforme, on va dire, et qui est collaboratrice artistique auprès de nombreux artistes, et notamment pour la Comédie de Valence, qui fait partie donc du collectif artistique. Juste avant d'écouter Daniel Lanois, on a parlé donc de ce choix qui nous emmenait au Mexique par rapport au spectacle D'un lit l'autre, qui est un spectacle autour de Frida Kahlo, sur Frida Kahlo. Je ne sais pas, par quel bout le prendre. Tu vas nous dire ça, qui a donc pu se créer en octobre. Malheureusement, qui n'a pas pu jouer plus, mais bon, voilà, au moins ça a existé. Une fois.
Trois fois,
formidable.
Avec un public masqué et espacé de plusieurs sièges, mais c'était fantastique.
Mais ça, aujourd'hui, on peut dire c'était fantastique, c'est terrible. Mais bon, voilà, c'est comme ça, en tous les cas. Ce spectacle, donc, D'un lit l'autre, tu es à l'écriture et tu es à la mise en scène. Qu'est-ce qu'il est, ce spectacle? Qu'est-ce qu'il nous raconte de Frida?
Alors, c'est, pour reprendre tes mots du début, c'est ni autour, ni sur, c'est plutôt dans la tête de... C'est-à-dire, c'est un spectacle qui est... J'ai eu envie de vraiment plonger dans l'espace. Le spectacle est vraiment un espace mental, voilà, pour le dire comme ça. Et on est à l'intérieur, disons, de la tête de Frida Kahlo, ou en tout cas ce que je peux projeter, bien sûr, parce que c'est moi qui écris. Mais j'ai eu envie d'être vraiment au plus près de cet artiste qui a vécu une vie avec beaucoup de, à la fois de une vie très riche, très dense, avec beaucoup d'événements, beaucoup de voilà, et aussi des accidents et des rebondissements divers et variés.
Une très grande douleur.
Une très grande douleur aussi. Et voilà, j'ai eu envie de ce qui m'a frappé au départ, c'était la différence entre, disons, l'usage qu'on fait maintenant des œuvres de Frida Kahlo, quelque chose de très commercial aussi, mais en tout cas de très pop et très presque léger, coloré. Il y a tout un folklore mexicain qui est véhiculé par cette figure. Et j'avais un peu envie pas prendre le contre-pied, parce que c'est aussi là, chez elle, très fort. D'ailleurs, elle a défendu beaucoup le folklore mexicain, entre autres. Mais j'avais envie, voilà, de...
La culture populaire au vrai sens du terme.
Voilà, exactement. C'était quelque chose de très important. Elle a vraiment collectionné... elle a une grande collection de statuettes de différentes provinces, etc. C'est quelque chose qui était vraiment important pour elle. Voilà. Donc, j'ai eu envie de me glisser un peu dans sa tête et d'écrire de son point de vue, d'avoir un regard un peu... paradoxal parfois, ou en tout cas au plus proche d'elle. Voilà, assez vite, ce qui m'a marqué, c'est la douleur de Frida Kahlo. J'avais pas forcément envie de la représenter, donc c'était un défi, parce que représenter un corps souffrant sur scène, c'était pas du tout là où j'avais envie d'aller. Voilà, c'était pas ça c'est plutôt l'énorme vitalité qui se dégage de son regard sur les choses, de son travail, d'une force de caractère qui transpire dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle déploie.
Et j'avais vraiment... La richesse d'une vie intérieure incroyable.
Exactement. Et le nombre de... Ce qui m'a quand même arrêté, c'est les longues périodes qu'elle a passées alitée. Et puis, donc, bien sûr, son rapport à la création, puisqu'elle peignait allongée, ce qui est quand même... aussi un exercice d'une grande difficulté. Donc, d'un lit l'autre, c'est vraiment... je suis partie de l'hypothèse que... Enfin, pas d'une hypothèse. Je suis partie de tous les lits dans lesquels elle a été allongée, soit parce qu'elle était hospitalisée, donc que ce soit à Détroit, à New York, que ce soit au Mexique, soit Elle a fait un voyage à Paris qui s'est mal terminé parce qu'elle a attrapé une maladie assez lourde. Donc, elle était malade en rentrant du Mexique sur le bateau. Donc, c'est vraiment, on passe comme ça à travers les différents lieux dans lesquels elle a été alitée, avec à chaque fois son regard sur la situation, sur la vie, sur les œuvres, sur les choses qui ont été importantes pour elle. Donc c'est vraiment un voyage dans son univers, mais toujours du point de vue du lit. C'est pour ça que ça s'appelle D'un lit l'autre. Donc assez vite est venue l'envie dans l'écriture, en tout cas, de travailler dans la langue, d'essayer d'attraper un peu de cette vitalité qu'elle déploie et de trouver dans la langue un rythme comme ça qui rendrait compte un peu de cette énergie-là. Et à partir de là, voilà, de revisiter des thématiques, mais qui me semblaient importantes. Du coup, comme je savais que j'allais mettre en scène ce texte, je réfléchissais aussi en même temps au dispositif scénique, et assez vite j'ai eu envie de me dire que ce corps-là de Frida Kahlo resterait immobile, ce qui est au théâtre un parti pris un petit peu fort, et que par contre sa présence à elle complètement immobile serait comme augmentée ou complétée selon les moments par une deuxième présence qui est elle au contraire virtuose, puisque je travaille avec une circassienne qui s'appelle Victoria Belén Martinez, et avec un dispositif de vol qui est assez impressionnant physiquement, ce qui me permet de déployer une deuxième présence à côté d'elle. Voilà, ça c'était important pour moi parce que, pour plusieurs raisons, parce que en étant alitée, elle était quand même du coup souvent entourée, donc que ce soit de sa sœur, d'infirmière, de son mari. Donc il y a quand même toujours une deuxième présence à côté d'elle. Elle a aussi beaucoup travaillé le dédoublement dans ses œuvres. Donc il y a plusieurs tableaux où elle se représente elle-même. Enfin, déjà, elle se représente, la pratique de l'autoportrait, c'est une pratique en miroir, donc il y a quand même toujours ce travail du double. Et en plus, il est arrivé qu'elle se représente, il y a un tableau notamment où elle se tient la main à elle-même. Enfin, cette présence double comme ça, c'est quelque chose qui traverse vraiment son œuvre et que je trouvais assez fécond comme principe scénique. Voilà,
je respire une seconde.
Je m'étouffe. C'est pour ça que j'aime pas le dire.
Quand tu parles de rythme, quand tu parles de, voilà, bah on le retrouve. Tu as dit quand j'étais à l'écriture, ben voilà, comme j'assurais la mise en scène, donc du coup je pensais au dispositif scénique. Effectivement, c'est encore une autre forme d'écriture. Écrire pour le théâtre, c'est une écriture particulière en règle générale, mais là, quand en plus on sait qu'on va être qu'on va être metteur en scène, qu'on va mettre donc en vie et tout ce qui est en train de d'ébullitionner dans la tête, est-ce que ce sont les images qui viennent, comment ça se passe dans le processus d'écriture justement? Les images sont forcément très importantes, enfin, c'est vraiment une manière différente d'écrire.
C'est pas tant les images, je pense, que l'adresse, en fait, c'est-à-dire le fait que bah, ça va être dit à voix haute, qu'il y a un public, que du coup, quand on écrit, c'est pas exclusivement... Enfin, c'est un travail littéraire quand même, mais c'est un travail qui est toujours dans l'idée d'être adressé, donc comment on peut faire entendre les choses. Donc il y a quand même cette conscience dans l'écriture, nécessairement, dans le choix des mots, dans le choix du rythme, dans le choix des phrases, dans l'agencement. Même si là, comme il y a une seule interprète, c'est donc un long monologue, finalement, mais qui est en dialogue avec la circassienne.
Voilà.
Mais néanmoins, la parole est portée par une seule et même interprète. Donc il y a quelque chose qui est très littéraire dans le monologue, parce qu'il y a quelque chose qui permet comme ça une forme d'écriture qui pourrait à première vue s'apparenter à celle du roman, mais il y a vraiment cette question en permanence de l'adresse. On ne parle pas du tout de la même manière. Voilà. Donc cette question-là, elle est forcément présente tout au long de l'écriture, même si finalement c'est quand même d'abord le texte qui s'est construit, et puis après, c'est en écrivant le texte que j'ai compris le dispositif que j'avais envie de déployer. Ça part quand même du texte, mais néanmoins, oui, c'est toujours là, dans un coin de la tête.
Et du coup, justement, quand tu passes à la mise en scène, est-ce que tu as un regard, est-ce que tu as eu un regard parfois un peu critique sur le texte? Est-ce que tu es revenu sur le texte pendant la création, par exemple? Est-ce qu'il y a des moments où...
Disons qu'on a fait plusieurs, lectures, destination des professionnels, notamment pour monter la production du spectacle. Donc, en travaillant avec la comédienne Céline Mia Baumgartner pour préparer ces lectures, on avait déjà, effectivement, en entendant le texte, simplifié des choses, enlevé des choses. Voilà, même dans l'agencement lui-même du texte, on avait fait un peu des choix comme ça dans le texte. Donc oui, il y a eu un petit peu des modifications dans le texte, de fait. C'était pas non plus... disons que la structure était quand même posée, les textes en eux-mêmes n'ont pas énormément changé, mais il y a quand même eu des... Oui, que ce soit en bouche, quoi. Donc c'était... mais c'est vraiment le fait de l'entendre aussi, elle, à voix haute, qui a permis tout ce travail-là, de voir avec elle comment elle ressentait aussi les choses, certaines phrases qui lui paraissaient trop longues, que d'un coup elle arrivait moins à raccorder. On a un peu cherché à rendre toute cette pensée-là plus fluide avec elle.
Et Frida, tu l'as rencontrée comment?
Un peu par hasard aussi, en fait, parce que je connaissais la figure de Frida Kahlo.
Pour ne pas la connaître, ça serait difficile. Voilà. Moi, dire dans un biglou, je ne sais où.
C'est ça. Mais je connaissais ses autoportraits, je connaissais dans les grandes lignes l'histoire, et puis il y avait eu un film, donc... il y a forcément comme ça des éléments que j'avais en tête. Après, je connaissais pas vraiment dans le détail son œuvre. Et puis après, j'ai découvert ces natures mortes qui m'ont vraiment surprise, parce que j'étais restée sur cette idée d'autoportrait. Et puis j'ai trouvé les natures mortes assez belles, et donc j'ai commencé un peu à les regarder de plus près. J'ai découvert son journal aussi. C'est vraiment par les natures mortes, je crois, et par la suite, par le journal, que j'ai appris plus à... Enfin, en tout cas, j'ai eu envie de travailler
la rencontre s'est faite
sur elle. Oui, tout à fait. Parce que d'un coup, il y avait quelque chose d'une grande force et aussi d'une grande fragilité, mais dans cette fragilité, une manière de la porter, de l'assumer, de la mettre... devant, d'en faire quelque chose qui est assez assez belle, assez rare. Donc voilà.
C'est pas tout à fait par hasard qu'on parle aussi d'un lit l'autre. C'est que normalement, si les choses avaient été ce qu'elles auraient dû être, ça aurait dû jouer aujourd'hui, demain et après-demain.
Oui,
voilà,
tout à fait.
À 20h au Théâtre de la Ville, puisque la Comédie de Valence est toujours en travaux. Et ça, que Covid ou pas, voilà. Mais donc, voilà, on aurait dû... alors, je dis aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est diffusé. On enregistre le mercredi 27, même si la diffusion se fait le mardi. On est mercredi 27 et donc à 20h, là, il est 16h26. Normalement, à 20h ce soir, on avait le grand bonheur de découvrir ce spectacle. On le découvrira en fin de saison, puisque la comédie a fait des reports, fait en sorte que les créations puissent être visibles. Tu à la comédie, on verra aussi Little Nemo, et ça, on va en parler un petit peu, parce que c'est encore une autre facette de la créatrice Tunde Deak. On va faire notre deuxième pause musicale, et tu as choisi Léopoldine HH. Alors c'est pas tout à fait par hasard, et puis on l'avait déjà, pour tout dire, diffusé avec Marc Lenné, puisque Léopoldine fait partie elle aussi du collectif artistique de la comédie.
Oui.
C'est avec Psychotropique.
Psy, psy, psy. plage bleue à non plus finir. Des amoureux qui s'aiment, jamais ne tanguent ni ne chavirent. Au fond des yeux, tout ce qu'il faut pour me guérir. Partir, partir, oh, juste partir. Psycho, psychotropique, il fait si chaud, oh, je n'ai plus mal. Psycho, psychotropique, sur tes îlots, oh, et sous ta voile. Psychotropica. Les nuages noirs seront repoussés vers le sud. Loin des désespoirs, la météo indique un interlude. Un scintillement dresse entre nos solitudes. Un sourire à ta gloire, ô déesse, ô incertitude. Psycho, psychotropique, il fait si beau, oh, je n'ai plus mal. Psycho, psychotropique, du littoral au littoral. Psychotropica. Émerger des flots au bras d'une Amazone. Suivre ses réseaux jusqu'au changement de zone. Accompagner de loin les émotions des mômes qui regardent des addictions du psychodrome. Psychotropique.
Ça me rend calme, tout est calme.
Psychotropique.
Où est l'étoile? Où est l'agonie?
Il fait si chaud, oh, je n'ai plus mal. Psycho, psychotropique, sur tes îlots, oh, et sous ta voile. Psychotropical.
C'était Léopoldine HH avec Psychotropique. Alors, Léopoldine HH qui n'est pas membre du collectif artistique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la comédie, mais qui est une des artistes qui était très présente sur cette saison, qui aurait dû être très présente, bien évidemment. Vous êtes bien installée dans l'invité de 11h et quelques. Je vous rappelle que nous sommes avec Thune des Déac. Je vais essayer de ne pas l'accrocher quand même à chaque fois, qui fait partie, elle, du collectif artistique du coup. D'ailleurs, Thunde, ce très joli nom, il vient d'où ?
C'est un prénom hongrois.
D'accord. Et parce que
mon père est hongrois, ma mère est française, mais moi je suis née à Nanterre, j'ai eu le droit à un prénom hongrois.
Et est-ce que la culture hongroise baigne une partie de toi-même ou pas du tout ? Ça a été.
Disons que j'ai parlé hongrois avec mon père toute mon enfance, donc je parle hongrois. C'est quand même, j'ai passé toutes mes vacances en Hongrie, sans y avoir jamais habité. diversité, donc c'est un rapport encore différent à un pays, mais oui, c'est quand même une partie de moi, bien sûr.
Ça fait partie des racines.
Tout à fait, ouais. Voilà,
quand même. Très bien. Et alors, on a parlé tout à l'heure, juste avant la pause musicale, de Little Nemo. Juste avant Little Nemo, qui sera donné en mars à la Comédie de Valence. Juste deux mots, parce que j'annonçais au départ qu'effectivement ton fil rouge c'était l'écriture, mais l'écriture sous mille et une formes, et notamment aussi le cinéma.
Oui. Alors oui, c'est vrai que j'ai réalisé deux courts-métrages. Mais ça a à voir aussi avec l'écriture finalement, parce que peut-être c'était comme un tremplin avant de réussir à écrire pour le théâtre à proprement parler, parce que l'objet scénario est quand même un objet techniquement à la fois très précis techniquement et en même temps on a une grande liberté, et puis à la fin finalement comme on tourne les images, les mots, il y a un côté on peut écrire un peu assez librement finalement. Donc oui, j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelait Intérieur boîte, et qui était suite à un spectacle que j'avais fait autour du roman de Kobo Abe qui s'appelle L'homme boîte. C'était une adaptation de ce roman, qui est l'histoire d'un homme qui un jour en rentrant chez lui aperçoit un grand carton en bas de chez lui. Et puis il est fasciné de plus en plus par ce carton, il a l'impression d'y détecter une présence de quelqu'un, il devient complètement obsédé par cette histoire, et puis un jour il rentre dans le carton et il découvre qu'à l'intérieur du carton il y a quand même une petite lucarne qui permet de regarder l'extérieur, mais bien au chaud à l'intérieur de sa boîte. Et donc c'est un parcours du regard comme ça, à partir de là il erre dans la ville, enfin il y a toute une histoire, c'est un roman, donc il y a des rebondissements, des péripéties, des rencontres. Mais le film, c'était vraiment l'envie de pousser un peu plus loin le dispositif vidéo qu'on avait créé pour le spectacle qu'on avait joué au Théâtre des Bancs Publics à Marseille dans le cadre du festival Les Rencontres à l'échelle. Et c'était une petite forme d'une cinquantaine de minutes, et j'avais eu envie de déployer plus ce dispositif qui, en termes d'image, est quand même assez intéressant, puisque c'est vraiment un regard recadré sur la ville. Et puis ça racontait aussi... à la fois la tentation d'un repli sur soi, et en même temps comment ce repli sur soi permettait finalement d'aller redécouvrir les choses autrement, comment le regard a été modifié par cette lucarne, comment finalement cette traversée dans la boîte pouvait transformer aussi la personne qui s'y glissait. Donc,
je trouve que ça fait terriblement écho avec ce qui se passe en ce moment.
C'est vrai qu'on est tous un peu dans des boîtes en ce moment.
Et on regarde par la lucarne.
Ouais.
De plus en plus.
Après, il y a un très joli livre de Marielle Massé qui s'appelle Nos cabanes, je crois, qui dit qu'on devrait tous se construire une cabane et réinventer le monde à partir de là. Donc peut-être que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse en ce moment. mais oui, c'est vrai. Et donc, voilà, il se trouve que ce film était presque plus un essai visuel. Il y avait quand même une narration, mais ça restait un travail vraiment de ouais, sur le regard et puis sur...
Quasiment plastique, quoi.
Voilà, tout à fait. Et il se trouve que j'ai grandi dans le 13e arrondissement à Paris, au milieu d'une dalle donc hérissée de tours très hautes. Et j'avais choisi de tourner ce film sur cette dalle des Olympiades, donc en faisant un travail aussi de sur le rapport visuel entre ces tours et puis cette boîte qui se trouve avoir la même forme, et de voir, donc c'était assez amusant comme tournage parce qu'on était sur la dalle des Olympiades, on avait bien sûr pas privatisé la dalle, donc il y avait du passage, il y avait des gens, et on a beaucoup de réactions aussi, on a monté aussi pas mal les réactions ou les non-réactions qui étaient assez étonnantes des passants. Donc voilà, ça c'était un premier travail comme ça que j'avais écrit, c'est un film qui dure une quinzaine de minutes, c'est vraiment un petit format. Et puis par la suite, j'ai eu envie d'écrire, je me suis prise au jeu du tournage, et puis j'avais rencontré aussi une équipe avec laquelle j'avais envie de retravailler, donc j'ai écrit un deuxième film qui est lui vraiment plus une fiction au sens classique du terme, même si j'ai gardé cette manière un peu documentaire de tourner, c'est-à-dire à la fois d'avoir des plans très très préparés, très organisés, et en même temps toujours avec ma chef opératrice qui s'appelle Julia Mingaud, on se préservait toujours des temps pour aller chercher des images un peu dans la ville, un peu sans plan préétabli, mais de voilà. Et ce deuxième film, j'ai choisi de l'écrire et de le tourner en Pologne, à Varsovie. Voilà, avec une comédienne franco-polonaise qui s'appelle Katarzyna Krocki. Et c'était, pour le pitcher rapidement, c'était l'histoire d'une femme qui s'est installée en France et qui, 25 ans après, à l'occasion du décès de son père, rentre à Varsovie alors qu'elle n'y est pas rentrée depuis très longtemps et qui redécouvre la ville dans laquelle elle a grandi, qui donc a changé et puis qui se confronte un peu à ses souvenirs en devant vider l'appartement de son père et qui ne trouvant pas vraiment les ressources pour le faire, décide de le faire de manière un peu absurde en jouant au dé les décisions qu'elle doit prendre. Donc père, impair, je garde, je jette, et puis progressivement en jouant au dé, elle part dans la ville et toutes ses décisions se prennent comme ça, et finalement il y a un trajet qui s'opère à l'intérieur d'elle. Voilà.
C'est quelque chose que tu as envie de reprendre, de continuer le cinéma, d'aller explorer?
Pour l'instant, là, tout de suite, je suis pas en train d'écrire un troisième film, mais j'aimerais beaucoup, oui, retravailler effectivement au cinéma. Ouais, tout à fait.
Alors, avant de retravailler au cinéma, on revient à la Comédie de Valence. On a dit donc tu fais partie effectivement du collectif artistique, et ça signifie que tous les artistes qui constituent cette équipe, on va les voir sous différents angles. On va les découvrir sous leurs différentes facettes. Et on a parlé donc de ta création d'un lit l'autre. On a parlé du travail que tu as fait sur Nostalgia Express, en l'assistanat à mise en scène, c'est ça,
tout
et dramaturgie.
Oui, oui.
Et Little Nemo, ou La vocation de l'aube, alors là, c'est encore un autre univers, déjà, et un autre travail.
Oui. Little Nemo, c'est donc Little Nemo. Je suis l'autrice, comme on dit maintenant,
oui.
du texte. Mais Little Nemo, c'est une commande. Donc c'est un projet qui est porté par mis en scène par Émilie Caplier, avec qui j'ai travaillé en tant que comédienne sur des projets où moi j'étais assistante. Donc on se connaît de longue date. Et quand elle a eu envie de travailler autour de Little Nemo, elle m'a demandé d'écrire avec elle, de rêver l'adaptation du texte, sachant que donc Little Nemo, c'est une bande dessinée qui paraissait tous les dimanches dans le Herald Tribune à partir de 1905, je crois, et qui a eu une longue vie, parce que je crois que ça s'est arrêté en 1922 avec une interruption quand même assez longue. Mais donc c'était la dernière page du Herald Tribune, c'était une planche dessinée avec à chaque fois dans la première case un petit garçon, donc Little Nemo, qui venait de s'endormir et qui était visité dans ses rêves par un personnage, en général un petit page ou un personnage un peu sucré comme ça, un peu qui venait le chercher en lui disant « La princesse du pays des rêves t'attend, viens, je t'emmène ». Et puis à partir de là, commençait toute une espèce de voyage. Donc comme on est dans le pays des rêves, il y avait une grande liberté de ce voyage, soit physique avec des chutes impressionnantes, des champignons qui deviennent géants, des pierres qui se transforment en cactus, voilà, il y a vraiment une grande inventivité de chaque voyage dans chaque planche. Et en général, chaque planche se finit donc toujours de la même manière, avec une image de Little Nemo qui se réveille en sursaut, soit parce qu'il vient de faire une chute impressionnante dans son sommeil. Donc une fois, il tombe de la lune, il tombe d'un immeuble qui s'est mis à grandir, et donc il se réveille en appelant sa mère ou son père ou quelqu'un de sa famille à chaque fois. Donc c'est un petit schéma comme ça, assez simple, qui restera le même d'ailleurs presque jusqu'en 1922. Et donc voilà, que comment faire un spectacle qui est donc une durée de disons 1h15 avec des petites planches comme ça. Mm-hmm. C'était un peu le défi.
Oui, tu as voulu reprendre cette idée de planche.
Alors, on a gardé en partie cette idée des planches, oui, tout à fait, avec ce défi, parce que donc c'est Winsor McCay, pardon, j'ai pas cité son nom, qui est l'auteur et le dessinateur de ces BD, et donc c'est aussi quelqu'un qui a vraiment inventé, qui a réinventé vraiment le graphiquement, c'est assez fou l'univers qu'il déploie, que ce soit avec les cases qui changent de taille, les couleurs qu'il emploie.
Effectivement, c'est une liberté totale à tous les niveau.
Ouais, tout à fait. Donc il y avait un peu ce défi d'une BD qui est donc en 2D et de voir comment on peut faire en 3D quelque chose, un défi technique parce qu'au théâtre montrer une chute de la lune, bah ça reste un défi quand même. Donc voilà, mais on a quand même décidé de garder ce format de la planche parce que ça nous semblait aussi assez dynamique et puis ça nous permettait de structurer les aventures un peu de Nemo. Donc on en a choisi quelques-unes, on en a choisi beaucoup au départ, puis on a resserré. On a aussi beaucoup travaillé avec Stéphane Zimmerly et Marc Lenné qui signent la scéno, à voir ce qui était réalisable aussi en termes de purement de scène. Et puis à partir de là, on a raconté cette histoire en choisissant quand même comme trame, il y a une trame qui se dégage un petit peu de toute cette aventure de Nemo, c'est sa recherche de la princesse qu'il finit par rencontrer. Je devrais pas le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il cherche. Il la cherche longtemps. Voilà. Donc on a un peu recentré autour de cet axe-là qui est assez simple et qui nous permettait d'avancer. Et puis on a quand même mis en abîme aussi cette histoire de Little Nemo avec celle de son créateur, parce que ça nous semblait vraiment intéressant de faire un écho entre ce dessinateur qui, à son époque, c'était pas gagné non plus de se dire qu'on allait vivre de la bande dessinée, si on peut dire ça comme ça. Donc, de voir un peu son parcours à lui, puis comment il y a des échos malicieux à trouver entre ce petit personnage et l'homme qui le dessine. Donc, il y a une mise en abîme comme ça de l'acte de création de Winsor McCay et puis de son personnage avec en gros un Nemo qui se réveille quand s'endort son créateur et voilà, tout un travail comme ça d'écho.
Donc on aura le plaisir de découvrir la fin mars, de 30 et 31 mars. C'est un spectacle, comme on dit, tout public à partir de 8 ans, qui fait partie du parcours famille proposé par la Comédie de Valence. Une petite précision, donc la mise en scène est signée Émilie Capier. Et puis petite précision en tous les cas pour moi c'est un vrai plaisir, c'est la musique est de Françoise Brut
tout
et Stéphane
Duversy. Oui, j'ai pas eu le temps d'en
mais
parler.
Voilà, Françoise Brut qu'on aime beaucoup
et qui d'ailleurs a écrit donc je sais plus combien exactement, mais 8 je crois chansons pour le spectacle et qui chaque chanson prend également en charge une planche. Donc c'est vraiment un spectacle assez musical et il y a vraiment ce parcours des chansons de Françoise qui vient comme ça faire avancer aussi l'histoire, qui est vraiment partie prenante dans l'histoire et c'est un dialogue vraiment avec la musique, un dialogue très, très présent tout au long du spectacle.
Très bien, alors une broderie de plus à découvrir. On arrive à la fin de cette invitée de 11h et quelques. On a essayé de ne pas trop parler de la situation sanitaire bloquante, même si elle s'est invitée malheureusement à plusieurs reprises parce que c'est la réalité. Je voulais juste dire deux mots, c'est qu'on espère vraiment qu'effectivement qu'on va vous retrouver toutes et tous, bien sûr. Vous nous manquez terriblement, on ne cesse de le dire. Et puis de dire aussi, juste en deux mots, que pour prendre la création d'un lit l'autre, ça a été créé. Il y a eu un travail donc de préparation, de création, de répétition. Ça a été créé et puis ça s'est arrêté. Vous avez pu retravailler dessus, répétition, etc. Et puis que finalement, ça ne joue pas. En termes d'énergie, c'est important de dire qu'un spectacle comme ça qui démarre et puis qui s'arrête en vol et pour le reprendre, c'est un vrai travail.
Oui, c'est un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail et c'est difficile de. Un spectacle, ça s'inscrit dans les corps des interprètes. C'est un, voilà, il y a vraiment une mémoire du corps, une mémoire du texte, une mémoire des mots. Et c'est vrai que quand on trouve cette alchimie, elle est toujours fragile. Nous, on a eu la chance de pouvoir jouer 3 fois tout début octobre. Et puis, on devait rejouer en décembre à Paris. On n'a pas pu. Là, on jouera pas non plus à Valence. Donc, il y a quelque chose qui est un peu... Il va falloir effectivement reprendre un peu le spectacle. Mais on a hâte de le faire.
Bien sûr.
On sera porté par cette énergie-là nouvelle de enfin pouvoir retrouver des salles.
Se retrouver.
Avec des spectateurs.
Public et artistes. Merci infiniment en tous les cas d'avoir joué le jeu.
Merci à toi de ce temps de
partage. Et puis, on souhaite encore une fois toutes et tous vite se retrouver. D'ici là, on te retrouve dans des ateliers scolaires parce que la vie continue et que voilà, la comédie continue aussi son travail au quotidien. Merci beaucoup, Tinder.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses ?
Eh bien, merci énormément, vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.